Alors, est-ce que pour vous, il y a des développements nouveaux qui sont apparus dans le cadre de la recherche en psychiatrie infantile, en psychopathologie infantile, qui remettent en cause complètement le travail de Freud?
Écoutez, remettre en cause, non, parce que vous m'avez demandé au début si j'étais freudien, je le suis, je le sens comme ça, je crois que je le resterai. Et quand on est freudien, quelque chose n'est jamais annulé par une nouvelle chose. Hein. Vous savez, Freud avait une très grande angoisse de séparation. Hein. C'est lui qui a dit à propos des humains, la difficulté, c'est que nous ne savons renoncer à rien. Et lui-même ne renonçait à rien. C'est-à-dire qu'une nouvelle théorie n'annulait pas la précédente. C'est comme dans les stades. Le stade anal n'annule pas le stade oral. Il vient se superposer, prévaloir, le compliquer un petit peu. Le stade phallique n'annule pas le stade oral ou anal. La latence non plus, l'adolescence non plus. C'est plutôt une superposition, une stratification successive des différentes problématiques. Et lui, avec ses théories, jamais il n'abandonnait. Il avait vraiment horreur de séparation. Hein. Sur les quais de gare, il avait la bouche qui se remplissait d'aphte. Il avait la bouche très sensible, probablement depuis la mort de son frère Julius et la dépression de sa mère à ce moment-là. Donc il exprimait beaucoup de ses angoisses à travers la bouche. Le tabagisme est peut-être un des effets. C'est pas moi qui fais cette hypothèse. D'ailleurs, c'est des gens comme André Green, très grand lecteur de Freud, parallèlement à tout ce que j'ai pu dire avant. Jacqueline Annouzière. Voilà, donc il était très sensible aux séparations, il n'aimait pas se séparer de ses théories. C'est-à-dire que par exemple, l'angoisse signal ne remplace pas l'angoisse automatique, mais il va faire en sorte que selon les situations, on se réfère plutôt à l'angoisse signal ou plutôt à l'angoisse automatique. La deuxième théorie pulsionnelle, pulsion d'amour, pulsion de haine, ne remplace pas la première théorie pulsionnelle, pulsion d'autoconservation, pulsion sexuelle, mais selon les cas, selon les patients, selon les situations, on va être plutôt dans une ambiance première théorie ou deuxième théorie. La deuxième topique ne remplace pas la première, etc., etc. Moi, enfin, il me semble que il faut être quand on est freudien, on est un peu dans ce système-là. On essaie de voir comment les choses s'enrichissent, mais elles ne s'excluent pas mutuellement. Par exemple, aujourd'hui, on a un grand débat sur ce qu'on appelle la possibilité de traitement analytique. Alors, non pas des bébés, parce que ça, je suis persuadé, ou des très jeunes enfants, je suis persuadé que, sauf en France, le problème est largement réglé. Non, mais je pensais davantage aux enfants autistes, puisqu'on parle beaucoup d'autisme sur un plan médiatique. Est-ce qu'il y a une psychanalyse possible des états autistiques? Toute l'école post-kleinienne a fait d'énormes travaux là-dessus. Alors c'est vrai qu'il se situe davantage dans l'optique théorie de la relation d'objet, comme je le disais au début de l'entretien, et moins dans l'optique théorie des pulsions. Mais à la Tavistock Clinic à Londres, vous avez des gens considérables, Anne Alvarez en ce moment, et puis des grands noms qui ont réfléchi à la question de l'autisme infantile, Frances Testine, Donald Melzer, etc. Et c'est vrai que là, on a un problème technique. Bon, il n'y a pas de problème technique qui ne renvoie pas à un problème théorique sous-jacent. Mais avec les enfants autistes qui sont si peu différenciés encore, qui n'ont pas encore installé de manière, dans leur appareil psychique le moi, le surmoi, bien sûr, qui sont encore qui sont dans un état, une espèce d'indifférenciation très primitive. C'est difficile de même de parler de self chez eux. Hein. De ce point de vue-là, d'ailleurs, le terme d'autisme pose une question, puisque autisme vient de la psychiatrie adulte, c'est l'idée qu'il y a un investissement du soi au détriment de tout le reste. C'est très concevable pour les schizophrènes et les psychotiques adultes, dont l'énergie psychique revient sur eux-mêmes, mais chez un enfant autiste qui n'a pas construit son self. Qu'est-ce qu'il y a à investir, puisque hein, autos, autisme, on est avant le soi et le self. Bon, enfin, c'est l'usage, on garde ce terme. Mais ça pose des problèmes techniques parce que, évidemment, l'interprétation en tant que telle n'est pas encore tout à fait opérante tout de suite. Et les thérapeutes d'enfants autistes savent très bien qu'avant de pouvoir en arriver à une interprétation plus classique, il y a parfois des années de travail pour aider l'enfant à se différencier, pour aider l'enfant, c'est Frances Huttin qui exprimait les choses de cette manière-là, à sentir qu'un autre existe, mais qui n'est pas menaçant, facile à dire, année de travail, hein, parce que l'autre, il peut être menaçant par la séparation, sentir que l'autre est soi, ça fait deux. Pour les enfants autistes, c'est sans doute un arrachement. Et puis l'autre, qui d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre, n'est pas le même. Des écarts à lui-même peuvent être intolérables pour l'enfant autiste. Donc tout ça, c'est des souffrances. C'est la souffrance d'être autiste. C'est la souffrance de sortir de l'autisme et de découvrir l'existence de l'autre et qui est menaçant. La place des psychothérapies psychanalytiques est essentielle, quoi qu'on en dise aujourd'hui. Mais elle pose des problèmes techniques parce que l'interprétation n'est pas tout de suite possible. Et que pendant des années, il faut souvent verbaliser simplement que l'enfant est devant lui un autre empathique qui arrive à ressentir un petit peu ce qui se passe en lui dans au sein de l'enfant dans le psychisme de l'enfant autiste et qui tout doucement et inlassablement met des mots sur les émotions, sur les affects, sur les actions. C'est une aide, ça paraît limité, mais c'est considérable. Parce que l'enfant, à travers cette action-là, qui n'est pas encore de l'interprétation, apprend qu'un autre peut partager la même chose que lui, comprendre ce qu'il est en train de vivre. C'est une aide absolument intense à la mise en place de l'intersubjectivité et de la subjectivation. Est-ce que pour autant c'est de l'analyse? Est-ce qu'il y a un grand débat là-dessus? Est-ce qu'on est dans une phase préparatoire de l'analyse ou est-ce qu'on est déjà dans l'analyse? Voilà, donc aujourd'hui, il y a cette question-là qui remet un petit peu en cause la technique. Moi, je crois qu'on est déjà dans l'analyse. Il y a quelqu'un qui avait un humour presque aussi grand que celui de Freud, qui est Bion, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure à propos de la césure de naissance, et qui disait qu'il ne faut pas oublier que certaines analyses s'arrêtent là où d'autres commencent. Et je pense que cette phase préparatoire de l'analyse, si on veut l'appeler comme ça, c'est-à-dire cette phase de verbalisation qui est souvent longtemps nécessaire avant l'accès à l'interprétation, c'est déjà de l'analyse, et qu'on a des correspondants même dans l'analyse des névrosés adultes de ça. Il ne faut pas se faire une image d'épinal de l'analyse de névrosés adultes. Il n'y a pas que de l'interprétation au sens le plus pur du terme. Il y a aussi de la verbalisation, il y a aussi de la présence, il y a aussi de l'intersubjectivité.